France Culture.
Et pour commencer ce journal, une cinquantaine de personnes souffrent d'une maladie encore inconnue en Chine.
Oui, et sur ces 59 personnes atteintes par cette épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, 7 sont toujours dans un état critique. La souche du virus provoquant ces pneumonies est inconnue et les autorités chinoises craignent déjà une nouvelle épidémie de type syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui avait causé la mort de près de 800 personnes entre 2002 et 2003. Où en est l'identification de ce nouveau virus et quelles parenthèses pourrait-il avoir avec le SRAS? Écoutez Yazdan Pana, il est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris.
Il est possible que ce soit un virus qu'on ne connaît pas. Apparemment, ça c'est assez rassurant, il n'y a pas de transmission de homme à homme. Ça je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut continuer les investigations pour essayer de trouver, mais pour l'instant on ne sait pas.
Covid-19, une pandémie sans fin. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Véronique Samoylov. Premier épisode, une apparition.
Le 1er janvier 2020, hein, quand un collègue justement avec lequel on travaille sur les zoonoses, Christos Linteris, m'a envoyé un message en me disant il y a quelque chose de bizarre à Wuhan, c'est peut-être le début d'une pandémie. Et c'est vrai que moi, j'ai tellement eu des messages de ce type-là que je n'y ai pas cru. En tant qu'anthropologue, j'exerce une forme de scepticisme à l'égard des prédictions de l'apocalypse. Mais quand j'ai vu l'ampleur que le phénomène prenait en Chine et ensuite quand il est arrivé chez nous, bah, j'ai réalisé qu'on y était.
En janvier 2020, la population française est coupée en deux. D'un côté, ceux très peu nombreux qui s'alarment des premiers cas de cette mystérieuse pneumonie venue de Wuhan, et puis les autres, les insouciants qui vaquent à leurs occupations et se moquent de ceux qui guettent l'apparition de tous les cas dans le monde, ne sortent plus sans gel hydroalcoolique et envisagent même secrètement d'acheter des masques chirurgicaux avant de constater qu'ils sont déjà en rupture de stock. Même parmi les personnes que nous avons interviewées pour revenir sur les 5 ans de la pandémie, virologues, épidémiologistes, anciens ministres ou membres du conseil scientifique, certains ont mis du temps à prendre conscience de la gravité de la situation. Parce que c'était inédit, parce que c'était improbable, parce que c'était un cauchemar auquel personne n'était préparé. On ne savait pas que la très glamour Fashion Week de Milan allait se transformer en cluster, l'un des nombreux termes avec hydroxychloroquine, masque FFP2, cas contact ou encore écouvillon que l'épidémie nous aura appris. On ne savait pas que le monde entier allait être mis sous cloche. On ne savait pas les morts à venir, ni que 5 ans plus tard, le Covid serait toujours là, moins virulent certes, mais toujours là. On ne savait pas non plus à quel point cette pandémie allait mettre à mal les rapports de confiance envers les autorités politiques, les médias, les scientifiques, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Pour revenir à l'origine de cette histoire, c'est tout d'abord à Marseille que nous nous sommes rendus, au campus de Lumini, pour rencontrer un spécialiste des coronavirus, Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS.
Moi, je m'en souviens très bien, puisque, comme beaucoup de laboratoires de recherche, on a une réunion informelle le matin, qui est le coin café. Et donc, on discute, en général, de ce qui se passe. Et donc, on avait l'habitude, de plaisanter, puisqu'on travaille sur les virus émergents. Donc, chaque fois qu'il y a ça et là, dans le monde, 2-3 cas des virus exotiques sur lesquels on travaille, on fait des blagues. On est là, ah, les affaires reprennent, le coronavirus, voilà, il y a eu un cas. Puis finalement, on s'est aperçu très rapidement que c'était pas du tout sujet à blague, puisqu'on a observé une augmentation extrêmement rapide des cas. Je me rappelle même Étienne de Crolly, mon collègue, qui est arrivé un matin et qui nous a dit « Non, mais attention, les gars, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Il va y avoir 150 000 morts en France. » On a rigolé, on était là, non mais Étienne, tu délires, tout ça. Puis en fait, effectivement, quand on regarde les courbes a posteriori, les courbes étaient beaucoup plus violentes, les courbes d'augmentation des cas. Et donc, on a commencé à suivre ça extrêmement sérieusement, d'autant plus qu'on avait comme comparaison le SARS-CoV-1 de 2003. Donc, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein. Ils sont très très proches. Mais malgré le fait que le premier SARS de 2003 était violent et l'épidémie augmentait fort, le SARS-CoV-2 était beaucoup plus rapide. Les augmentations et la contamination étaient beaucoup plus violentes.
Vous dites même que le Covid, on aurait dû l'appeler le SRAS 2, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très proches. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez nous...
La carte d'identité d'un virus, c'est la séquence de son génome. C'est le code génétique. Et donc, dès que les informations de séquence ont été connues, on s'est rendu compte que c'était effectivement vraiment un frère jumeau du SARS-CoV-1. À plus de 90% dans certains gènes, ils sont pratiquement identiques.
À quel moment, ça, vous vous souvenez? C'était en janvier déjà?
Ah oui, dès que la séquence est sortie. La séquence a été disponible immédiatement sur Internet pour tout le monde. Et là, lorsque elle a été diffusée début janvier, tout le monde entier a commencé à travailler sur cet isolat de Wuhan.
Pardon, mais un isolat, c'est quoi? C'est une sorte de code ou c'est un...
Un isolat, c'est un individu virus. C'est-à-dire
donc c'est
un
physiquement...
génome. C'est physiquement une copie du code génétique du virus. On le trouve quand vous faites un test et que vous prenez un coton que vous mettez dans le nez ou dans la gorge. En fait, vous raclez et vous récupérez du virus qui est ensuite détaché dans un petit liquide. Ensuite, vous faites des expériences de biochimie et de séquençage pour trouver le code génétique de ce virus.
L'information fait maintenant les gros titres de la télévision chinoise. Le nombre de malades atteints par le nouveau type de coronavirus a triplé au cours des 24 dernières heures.
20 janvier 2020.
Il serait à présent plus de 220. Trois personnes sont mortes. Des cas ont été signalés en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud. Pour la première fois, le président chinois Xi Jinping décrète la mobilisation générale. Dans les rues de Pékin, l'inquiétude grandit.
C'est effrayant. Ce virus, on en parle de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, un expert chinois a confirmé ce que tout le monde craignait. Ce virus se transmet d'un être humain à l'autre, ce qui pourrait amplifier la contagion.
On en parle là a posteriori, quand on est au début de l'année 2020 et que l'on ne sait pas ce qui va arriver, notamment qu'on ne mesure pas le flux de malades, le nombre de malades et notamment le nombre de malades en situation grave et en nécessité de soins intensifs qu'on va avoir.
François Crémieux, ancien directeur de l'ARS.
À l'époque, on pense que les dispositifs mis en place, notamment autour du dispositif Ebola, qui était en fait la dernière crise à laquelle on s'était préparé. Et Ebola, c'était l'hypothèse qu'on aurait, encore une fois, un tout petit nombre de patients, quelques-uns, peut-être même moins de 5, mais qu'il allait falloir les capter, ces patients, le plus tôt possible, dès la sortie de l'avion, immédiatement les conditionner, protéger tout risque de contamination, les installer encore une fois dans des hôpitaux hyper spécialisés, comme pour ce qui est de Paris, à Bichat ou à la Pitié-Salpêtrière. Et on était sur cette préparation de ce type de crise-là. Voilà, quand on a pris conscience à la fois qu'il y avait une épidémie dont on comprenait pas tout, mais dont on savait qu'elle était grave en Chine, et quand des premiers Chinois qui étaient touristes à Paris ont été atteints du Covid, et que notamment deux d'entre eux, un père et sa fille, ont dû être pris en charge. À l'époque, on comprenait que quelque chose d'inédit était en train de se passer, mais on était encore sur la perspective de quelque chose de très contrôlé, de très maîtrisé, avec dans la perspective d'un très petit nombre de cas. Et donc, on en était encore à compter le nombre de chambres qu'on dit à flux laminaire, c'est-à-dire des chambres qui sont sous pression négative, et on en avait quelques-unes en Île-de-France, et on se posait la question de savoir s'il en faudrait 3, 5, 10 ou 15, c'était ça les ordres de grandeur. Mais donc encore une fois, tout l'enjeu au début de l'année 2020, c'est de passer d'un type de risque épidémique avec un tout petit nombre de malades gravissimes à un nombre de malades beaucoup plus important, c'est ce dont on se rend compte à la fin du mois de janvier, courant février.
Le nouvel an chinois sous cloche, plus de 40 millions de personnes confinées dans le centre du pays où le nouveau coronavirus est apparu.
24 janvier 2020.
Certains tronçons de la Grande Muraille sont fermés, Disneyland Shanghai aussi. 26 morts, 830 personnes officiellement contaminées d'après Pékin. En France, un patient peut être porteur du virus à Bordeaux. Il est originaire de Chine et il est hospitalisé en attente de résultats de tests d'après SOS Médecins qu'il a d'abord pris en charge. Un second cas confirmé enfin aux États-Unis qui font des analyses sur 50 autre personne.
Aurélien Rousseau, vous êtes député, vous avez été ministre de la Santé en 2023. directeur de l'Agence régionale de la santé Île-de-France de 2018 à 2021, donc pendant l'épidémie de Covid. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit quand on a commencé à parler des premiers cas de Covid? Est-ce que vous avez immédiatement senti la gravité potentielle de la situation?
Oui, pas fin décembre, début janvier. Il se trouve que c'est la vie administrative. Moi, je demandais à tous mes collaborateurs, à tous les directeurs de l'agence, de me faire chaque week-end un compte-rendu d'activité, ceux qui avaient le don de pourrir leur week-end, pour me tenir au courant des informations dont on n'aurait pas pu parler, et puis faire ce qu'on appelle en jargon administratif une forme de cartographie des risques. Et dans la fin de la, vers le 10 janvier, la direction de la veille et de la sécurité sanitaire, dans son compte-rendu d'activité, m'indique que la direction générale de la santé fait part de l'existence d'un virus chinois dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est suffisamment important pour qu'il y ait eu des discussions à l'OMS. Voilà. Ce qui me conduit du reste, le 22 janvier, a sollicité le préfet de région Île-de-France, Michel Cadot, pour parler de ce risque épidémique lors de la réunion de tous les préfets de la région. Donc on n'est pas pris totalement au dépourvu lorsque le premier malade est diagnostiqué en Île-de-France le 24 janvier.
Pendant ce temps-là, alors que les cas de Covid apparaissent au compte-gouttes sur le sol français, et tandis que l'Italie du Nord commence à être particulièrement touchée, la vie continue comme si de rien n'était. La Chine, c'est loin, et les difficultés transalpines sont mises sur le compte d'une incurie du système hospitalier italien. Le gouvernement, qui se remet à peine de la crise des Gilets jaunes, porte toute son attention aux élections municipales, dont le premier tour aura lieu le 15 mars suivant. Des élections qui nous intéressent ici tout particulièrement, puisqu'elles vont nous coûter la défection de la ministre de la Santé en charge de l'épidémie en cours, Agnès Buzyn. Raphaël Baquet, journaliste au Monde, a suivi la campagne électorale à Paris. Elle nous raconte.
En fait, à Paris, il y a une sorte d'enjeu, puisque Anne Hidalgo va se représenter, mais Emmanuel Macron essaye de pousser ses pions, et notamment, il a poussé l'un de ses porte-paroles et pilier d'En Marche, Benjamin Griveaux, à être le candidat. On voit déjà que c'est compliqué, quand même, hein. Et il y a déjà des marques d'impopularité, en tout cas de remise en question de la politique menée par Emmanuel Macron. Et donc on voit déjà que ça va être peut-être plus difficile que attendu. Puis il y a un coup de théâtre.
Tôt ce matin, Benjamin Griveaux enregistre cette allocution depuis son QG, la mine défaite, la voix blanche.
14 février 2020.
Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
On apprend que une vidéo circule où Benjamin Griveaux se montre en train de se masturber, ce qui est tout à fait sidérant évidemment, et ce qu'il disqualifie immédiatement. Il est obligé de démissionner. Ça remet tout en question et ça introduit un élément de scandale alors même qu'on est dans une difficulté et peut-être une menace avec l'épidémie.
C'est un coup de tonnerre. Mercredi, les premiers messages circulent sur les réseaux sociaux, relayant des conversations et des vidéos à caractère sexuel échangées entre le candidat En Marche et une partenaire féminine. Mais Benjamin Griveaux continue sa campagne sans démentir. Jeudi matin, il présente même son projet pour Paris, entouré de ses colistiers. Rien ne transparaît.
À la mi-février, la menace de la pandémie mondiale est de plus en plus présente. Il y a déjà des cas en France. C'est Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui gère cette affaire en France. Et c'est elle qu'on va choisir pour remplacer Benjamin Griveaux. C'est-à-dire, en plein début de pandémie, on change de ministre de la Santé.
En fait, ce qui est sidérant, c'est qu'Emmanuel Macron fasse le choix, pour remplacer Benjamin Griveaux, de pousser Agnès Buzyn. C'est complètement délirant de la faire partir là. Ce qui est fou, c'est que, alors qu'elle sait, peut-être mieux que personne, la menace que représente l'épidémie, elle accepte de céder à l'amicale pression, si je puis dire, en tout cas à la volonté du président. Hein. Peut-être par orgueil, peut-être par narcissisme, parce qu'elle croit qu'elle peut changer les choses, alors même que politiquement, on voit bien que, de toute façon, électoralement, ça ne changera rien. Donc c'est vraiment une prise de risque tout à fait étonnante.
Agnès Buzyn, bras dessus, bras dessous, avec son successeur Olivier Véran, avant de quitter en larmes le ministère de la Santé.
17 février 2020.
J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous.
Est-ce que pour vous, Raphaël Baquet, ce choix de changer de ministre de la Santé, alors que la pandémie est réellement là, déjà sur le sol français, c'est une erreur politique et peut-être la première fois que le doute va s'installer dans la population vis-à-vis du politique, dans la manière de gérer cette pandémie?
Une erreur politique, oui, certainement. Dans une crise majeure, on ne change pas celle qui s'occupe vraiment de l'épidémie, fédère les personnalités en présence et les forces en présence, même si c'est pas elle qui gère toute la pandémie, bien sûr. Mais enfin, tout de même, ça donne un signal tout à fait étonnant aux Français, qui est que l'intérêt politique d'Emmanuel Macron et son jeu d'échecs passent avant même la prise en compte de la santé des Français et d'une menace qui peut être grave. On ne sait pas encore l'ampleur qu'elle va avoir. Enfin, on sait déjà que c'est inquiétant, tout de même, tous ces signaux.
Des barrages de carabiniers au bord des routes, des files de caddies devant les supermarchés, le nord de l'Italie est donc en quarantaine, 52 000 habitants d'une dizaine de villes en Lombardie et en Vénétie pour tenter d'éviter la propagation du coronavirus. Mais le nombre de morts continue d'augmenter, 6 victimes au total depuis vendredi, les dernières à Brescia et à Piacenza, près de Milan. Piacenza où le confinement se poursuit, pour l'instant Bruce de Calzin dans le calme.
Il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres entre Piacenza et le cœur de la zone rouge. Les habitants s'inquiètent de cette proximité et d'un éventuel confinement au point de dévaliser les supermarchés.
En fait, moi j'ai commencé à m'inquiéter assez tardivement, je trouve, le dernier week-end de février.
Dominique Costaliola, épidémiologiste.
Quand j'ai vu comment ça se passait en Italie du Nord, que donc... Vous voyez, un système de santé très comparable au nôtre, en dépit de ce qu'en disaient les personnes à l'époque, et que j'ai vu qu'ils étaient totalement débordés, là j'ai su que ça allait être la crise, aussi en France. Vous voyez, c'était pas très tôt, puisque le système d'alerte de la Société des maladies infectieuses, hein, qui fait de la surveillance de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Là, le premier message où il parle de cette pathologie nouvelle à Wuhan, c'est le 31 décembre.
Dans deux villes, Qom et Arak, la maladie a déjà touché 77 700 personnes dans le monde, dont plus de 1500 hors de Chine. Au total, 30 pays sont concernés. L'Italie est le premier pays européen à enregistrer des cas mortels parmi ses ressortissants.
En fait, je pense qu'on a pensé que cette épidémie était possible à contenir, probablement jusqu'à Bergame. Là, on s'est rendu compte que l'épidémie débordait largement de la Chine, que si des malades étaient accueillis dans les hôpitaux de Bergame, c'est que l'épidémie avait débordé de partout et que donc elle n'était plus maîtrisable par le seul fait d'identifier les cas un par un, de les isoler, de trouver leur cas contact, d'isoler leur cas contact et comme ça d'arrêter l'épidémie.
Le dernier cas confirmé est un Turinois de 40 ans. L'homme aurait participé au même marathon que celui que l'on dénomme désormais le Passion 1, un homme de 38 ans, le premier Italien à avoir contracté le virus. Et selon la presse
Jean-François
italienne...
Jean-François Delfrécy, vous êtes immunologue, vous aviez travaillé préalablement sur les épidémies d'Ebola et du Sida. Vous avez donc été nommé président du conseil scientifique pendant la crise du Covid. Mais vous, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris qu'il était en train de se passer quelque chose de grave?
Ah oui, je m'en souviens très bien. Bon, j'étais à l'époque président du comité consultatif national d'éthique. Donc un peu retiré, je dirais, des affaires urgentes et immédiates. Hein. Donc j'étais comme un citoyen, finalement, un citoyen éclairé. Et je suis allé à la seule réunion physique qu'a organisée l'OMS, puisqu'ensuite tout a été fermé, qui a eu lieu mi-février à Genève, à l'OMS. Et j'étais, pour le comité d'éthique, au niveau international, quels enjeux éthiques pouvaient poser une grande pandémie. Et là, j'ai retrouvé tous mes copains qui étaient virologues, spécialistes des maladies émergentes, Et puis ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les Chinois étaient en vidéo. Les médecins chinois étaient en vidéo, j'en connaissais un ou deux. Et là, tout fermé, c'est-à-dire répondant pas aux questions, des questions simples. J'ai même été assez agressif lors de cette réunion de l'OMS en disant « Vous répondez pas, est-ce que vous avez des consignes politiques pour pas répondre ?» Je me suis fait même reprendre par, je dirais, la directrice de séance, mais j'ai l'habitude de ça à l'OMS, hein, il faut savoir s'exprimer. Je suis sorti de là avec un profond malaise. Et puis en plus, il y avait des copains italiens qui commençaient déjà à être dans une situation difficile. Ça commençait. Donc, je suis parti de l'OMS. J'ai rejoint mes petits-enfants au ski, parce que c'était les vacances de février. Donc, c'est pour vous montrer le degré d'inquiétude que j'avais. Et puis quand même, pendant le ski, ça, pendant 4-5 jours, ça m'a tarabusqué. Et je suis rentré plus vite que prévu. Puis je suis allé à Londres, à la London School, pour qu'ils me parlent de leur modèle, qui était assez négatif sur ce qui allait se passer et assez inquiétant. Je suis rentré à Paris, j'ai vu Simon Cauchemez à Pasteur, qui était le modélisateur français qui était déjà sur la piste. Et là, du coup, j'ai joint l'Élysée en disant « je pense qu'on se trompe et qu'on a affaire au début d'une immense pandémie ».
En ce mois de février 2020, il est désormais illusoire de croire que la France sera épargnée. Alors que jusque-là, la plupart des cas de Covid concernaient des personnes isolées, venues de Chine ou encore des touristes coincés dans des bateaux de croisière en quarantaine, un premier cluster explose dans la région de l'Oise. Un cluster dont on suppose qu'il venait de la base militaire de Creil et qui sera à l'origine d'une vague de contamination inouïe dans les mois à venir.
Depuis 24 heures, c'est tout un département en alerte. 12 cas supplémentaires répertoriés hier dans l'Oise, ce qui en fait le principal foyer de contamination en France.
28 février 2020.
Ces nouveaux cas étaient tous des amis, des collègues ou des personnes qui ont côtoyé ces dernières semaines les deux premiers malades identifiés. Le professeur décédé et l'homme qui travaillait sur la base militaire de Creil. Hier, on apprenait qu'au moins 3 militaires avaient à leur tour été contaminés. Alors, dans ce village voisin, on s'interroge.
À mon avis, la base de Creil, il va falloir qu'ils mettent les gens en quarantaine, qu'ils ferment la base de Creil.
Aujourd'hui, d'autres personnels de la base ont été testés. Les résultats ne sont pas encore connus. Autre source d'inquiétude, l'hôpital de Compiègne. 3 patients porteurs du Covid-19 y sont passés. 127 membres du personnel sont désormais confinés et 59 testés. En cas d'épidémie, le maire craint que l'hôpital soit à court d'effectifs.
Donc il y a eu 2 épisodes importants, il y a eu Bergame et il y a donc eu effectivement ce premier cluster à Creil. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que l'épidémie ne se maîtriserait pas à la manière d'une épidémie comme Ebola, mais qu'elle allait nécessiter une autre dimension, un autre niveau de prise en charge avec la mobilisation massive du système de santé et puis progressivement la mise en place de gestes de ralentissement, en tout cas de dispositifs de ralentissement de l'épidémie.
Même nous, hein, en tant que soignants, on a quand même eu du mal à se mettre dedans et à penser que c'était vrai.
Céline Lejeune, urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine de Paris.
En fait, je me souviens parce qu'on avait reçu un membre de la famille d'un des premiers radiologues qui avait été qu'à contact d'un patient.
À Creil, non, c'était pas...
C'était, oui, Creil, ouais. Exactement. Et donc, c'était panique à bord parce qu'effectivement, on avait les consignes, mais ça restait abstrait pour tout le monde. Et alors là, on s'est dit, oh là là, il va falloir que quelqu'un aille voir ce patient qui s'habille. Et on ne l'avait jamais fait, en fait. Mmh. Donc, on s'est retrouvés à sortir le kit de combat, les combinaisons, les gants, les protections. Et en fait, voilà. Et je me souviens de ce moment en me disant, ah oui, on va commencer... avoir des cas contacts, des cas. Il va vraiment falloir qu'on s'organise, parce que là, c'était un bazar pas possible, quoi. Puisque tout s'est vite enchaîné, en fait.
Réanimation, détresse respiratoire et infection sévère, c'est là.
À Marseille, c'est à l'hôpital Nord, au service de médecine intensive et réanimation, que nous avons rencontré Sabine Valera, infirmière majeure de soins, et le professeur Samir Rayesh.
Moi, je me rappelle très bien du premier cas, parce que c'était un week-end, et on a voulu isoler cette personne des autres patients, parce que dans nos chambres, on a des patients qui sont immunodéprimés, puisqu'on travaille aussi avec des greffés. Et en fait, on a dû ouvrir une unité qui allait être en travaux. On a complètement bâché les portes, etc. Et on a mis ce patient tout seul, avec des soignants tout seuls dans cette unité. Ouais.
Ah ouais, je me rappelle très très bien. Une petite dame qui doit avoir, je sais plus de 80 ans, pour laquelle on rentrait en mettant deux blouses, des gants, un masque canard, un chapeau, des précautions, scaphandre presque. Et elle qui nous regardait, la pauvre, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Oui, je me rappelle, s'il y a bien une patiente dont je me rappelle, après dans le flot de patients Covid, c'est de la première patiente Covid qu'on a eue. Quoi.
Et puis il se trouve qu'il y avait plusieurs médecins, notamment urgentistes de l'assistance publique de Paris, qui étaient en lien direct avec des urgentistes de Wuhan, qui essayaient de nous expliquer, de décrire ce qui se passe. Tout ça dans une situation dans laquelle l'information est difficile à interpréter. C'est-à-dire que la question, c'est de se demander, y compris en Chine d'ailleurs à l'époque, est-ce que l'épidémie est une épidémie très concentrée et que finalement le blocage de la ville va permettre de la contenir? Ou est-ce que, et c'est ce qu'on va réaliser progressivement, en fait, il n'y a pas eu de blocage et que l'épidémie est mondiale? Ce qui est très difficile pour vous le raconter aujourd'hui, c'est de raconter ce séquencement qui était quasiment un séquencement à la journée. Dans la salle de crise de l'assistance publique, il y avait une télévision qui était allumée en permanence et qui décrivait cette fameuse carte où les pays passaient en rouge les uns après les autres. On vous en souvenez peut-être, qui était une carte où au début il y avait des ronds rouges en fonction du nombre de cas, et puis progressivement, jour après jour, on a vu cette carte devenir complètement rouge. Et c'était une de nos surprises. Au début, on se demandait encore une fois si ça allait sortir de Chine, et quelques semaines plus tard, la planète entière était rouge, avec des données qui venaient d'une université américaine et qui étaient comme ça cartographiées. Et cette surprise de l'évolution d'une épidémie qui allait à la fois de manière aussi rapide et surtout de manière aussi mécanique, c'est-à-dire qu'elle avançait de manière comme ça, l'épidémie avançait de manière inéluctable, ça a été une prise de conscience progressive jusqu'au moment où l'Europe et globalement le monde s'est rendu compte que les seules mesures sanitaires pour la prise en charge de l'épidémie n'allaient pas suffire.
Patrick Genton, on vous retrouve à Mulhouse. Mulhouse où la maire de la ville a décidé de renforcer les mesures prises par le préfet.
6 mars 2020.
Oui, effectivement, Pierre, Mulhouse qui enregistre sans doute le plus grand nombre de personnes touchées. C'est là que s'est tenu le rassemblement de l'église évangélique de la Porte Ouverte Chrétienne du 17 au 24 février dernier. La maire Michèle Hutz a rappelé que la ville et ses environs étaient devenus le plus fort cluster de coronavirus en France. Décision a donc été prise de fermer les musées, les bibliothèques, le conservatoire. Les manifestations sont suspendues au parc des expositions. L'élu a annoncé aussi des mesures pour les élections municipales qui se déroulent ici avec des machines à voter. Il y aura désinfection après chaque passage d'électeur de ces machines le jour du scrutin.
Il va y avoir ce rassemblement évangélique à Mulhouse qui va essaimer en fait partout dans l'Hexagone et dans les territoires d'outre-mer ce virus. Vous, vous êtes allé sur place, c'est ça, Raphaël Baquet? Après, hein, bien
après.
Sûr.
Oui, à vrai dire, c'est étonnant que ce rassemblement d'ailleurs ait eu lieu sans aucune précaution. Hein, alors que on sait déjà qu'il y a des éléments inquiétants, mais rien ne vient perturber les agendas déjà préparés. 2000 personnes, hein, 2000 personnes qui se retrouvent pendant une semaine, les uns contre les autres, se tenant la main, qui chantent ensemble, donc avec tout ce que ça peut supposer de postillons envoyés, des gens de tous les âges, dont des gens âgés, des gens qui viennent de non seulement de tout l'Hexagone, mais aussi des dom-toms, de la Guyane, des Antilles, de la Corse. Et tous ces gens-là vont évidemment sont tout à fait inconscients du danger. Ils vont vivre ensemble pendant une semaine et ils vont repartir porteurs du virus. Ils ne le savent pas, bien sûr, mais on le saura peu après parce que des hôpitaux de Corse, de Guyane, du sud de la France, de Mulhouse, bien sûr, vont signaler des cas et que peu à peu, on va reconstituer le cheminement et on va s'apercevoir que tous ces cas viennent d'un même endroit. C'est la première fois qu'on a ce qu'on appellera un cluster, qui est un mot que jusque-là on n'utilisait pas et qui va rentrer dans le langage courant, et qu'on va comprendre comment se propage l'épidémie. Et c'est vrai que on voit à quel point d'ailleurs l'inconscience peut jouer. C'est-à-dire que c'est vraiment encore un moment, alors que nous avons des premiers signaux, c'est vraiment un moment où personne encore ne fait attention.
Alors, interroger les réanimateurs de Colmar, de Mulhouse, etc. Ils vous raconteront ce qu'ils ont vécu. Hein. C'est des choses absolument dramatiques qu'ils ont pu vivre sur la partie du mois de mars. Et c'est ça qui nous a fait accélérer, entre guillemets, et rentrer encore plus vite dans la pandémie.
Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une, quelle évolution du coronavirus en France ces dernières heures? Une réunion interministérielle vient de se tenir autour du Premier ministre. 190 nouveaux cas annoncés et des mesures de prévention renforcées dans plusieurs territoires, notamment dans l'Oise et le Jura, avec près de 100 cas supplémentaires.
De nombreuses personnes auraient été contaminées lors de ce rassemblement organisé il y a deux semaines dans une église évangélique de Mulhouse. Depuis, la propagation s'accélère. 81 personnes malades. C'est 8 fois plus qu'il y a 48 heures.
C'est-à-dire que nous sommes dans un stade 2 renforcé.
Alors l'activité au centre 15 du Haut-Rhin a été multipliée par 4.
Vous l'avez compris, tout s'est accéléré ces dernières heures. Et des chiffres qui pourraient être bien plus importants, car désormais seules les personnes présentant les symptômes les plus graves sont testées. Trop d'appels au SAMU, trop de cas suspects.
Des rassemblements publics interdits, mais des élections municipales maintenues. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de report en France pour raisons sanitaires.
Il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus.
D'accord. Et les présidents de bureaux de vote, les assesseurs, vous êtes en train de réfléchir pour éventuellement leur...
Sibeth Ndiaye sur France Inter, 5 mars 2020.
Alors, il ne s'agit pas d'avoir des gants. Il ne faut pas sombrer dans la psychose. Ce qui est certain, c'est que nous connaissons les gestes barrières qui font qu'on n'est pas infecté par le coronavirus ou qu'on réduit très profondément les potentialités d'infection. Donc, c'est ces gestes barrières qu'on doit mettre en œuvre de manière prioritaire.
Le 7 mars, soit 10 jours avant l'annonce du confinement, la communication politique se veut toujours rassurante. Emmanuel Macron et son épouse passent la soirée au Théâtre Antoine à Paris, sans masque, et déclarent aux journalistes « La vie continue, il n'y a aucune raison mise à part pour les populations fragilisées de modifier nos habitudes de sortie ».
Une députée atteinte du coronavirus a été hospitalisée aujourd'hui, ce qui porte à 3 le nombre de cas recensés à l'Assemblée nationale, dont 2 députés. Un troisième employé de la RATP a été infecté par le coronavirus, un conducteur de bus. Il a été mis en quarantaine. Emmanuel Macron réunira demain à 18h à l'Élysée un conseil de défense sur la crise du coronavirus. Selon son entourage, le passage au stade 3 de l'état d'alerte n'est a priori pas prévu.
Puis en 2-3 jours, tout s'est très vite accéléré. On m'a demandé d'organiser une réunion de scientifiques à l'Élysée le 5 mars.
Jean-François Delfrécy.
Et en sortant, on m'a demandé de faire le compte-rendu. Là, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué. Le lendemain, on me proposait d'être président. Il y avait la proposition d'un conseil scientifique. J'étais amené à voir le président pour discuter de 2 points, de quelles étaient sa vision d'une crise éventuelle. Il m'a dit qu'on protégerait les plus faibles et qu'il s'appuierait sur la science. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait par la suite. Et donc, avec ces 2 bases, j'ai dit oui, je vais y aller. Tout en lui disant 2 choses. Premièrement, prenez un type plus jeune parce que ça va durer. Il m'a dit combien de temps? Et moi, j'ai répondu 1 an. Donc, je m'étais totalement trompé. Ça a duré beaucoup plus que ça. Et puis, je lui dis, est-ce qu'on renomme vraiment un conseil scientifique, c'est-à-dire un objet de novo? Ou est-ce que on fait un conseil scientifique à partir des présidents des différentes agences sanitaires, des directeurs, qui était l'autre modèle possible? Et il m'a dit non, je veux quelque chose de souple, d'agile, indépendant. Et là, dans le week-end, j'ai nommé la moitié des membres du conseil scientifique. L'autre moitié a été nommée par le ministre de la Santé, Olivier Véran à l'époque, qui venait juste d'arriver, parce que c'était le moment où il y avait ce changement. Et on s'est réunis une première fois le mardi 10. Didier Raoult était présent par vidéo à ce moment-là. Il nous a dit qu'on faisait fausse route et que lui avait déjà la solution. On était un groupe très multidisciplinaire, où on se connaissait pas forcément tous. Moi, je connaissais pas tout le monde. Et on s'est très vite unis. On s'est vus 1 ou 2 fois le mardi et une partie d'entre nous le jeudi à l'Élysée. Puis après, ça a été fini. Après, on est rentré dans les 300 réunions que nous avons fait par vidéo.
Daniel Benamouzik, vous êtes sociologue.
Comment vous vous êtes retrouvé au sein du conseil scientifique le 10 mars justement 2020 ?
Brutalement, comme tout le reste dans ce début d'épidémie, mais en réalité assez vite il y a des questions qui se posent au-delà de la dynamique propre de l'épidémie sur des mesures à prendre, donc qui posent la question de l'adhésion des uns des autres sur quelle base dans un contexte qui est évidemment très très perturbé, voilà qui va s'appeler pendant tout au long de l'épidémie, ça j'ai pas réussi à faire changer le vocabulaire, mais de l'accepter stabilité sociale qui va être très débattue, vous vous souvenez certainement, avec des dimensions émotionnelles très fortes, avec de la peur, avec de la colère, tout ça étant mesuré hein, par ailleurs par un certain nombre d'instituts qui regardent comment ces éléments-là sont déclarés par nos concitoyens et comment ils évoluent dans le temps. Donc il y a toute cette dimension d'adhésion aux mesures qui peuvent être envisagées. Il y a au moins deux autres points très très importants, c'est qu'il y a aussi une lecture un peu institutionnelle des enjeux, de qui est où, à quel moment, et qu'est-ce que ça veut dire. D'autant que toutes les lignes bougent en même temps et que c'est pas toujours simple. Une des premières questions de cet ordre qui s'est posée, c'était sur notre propre place de conseil scientifique, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette fonction de conseil? En quoi c'est juste une fonction de conseil? Et donc, c'est sur ces points-là aussi qu'on est appelé à clarifier, à discuter un certain nombre d'autres choses, y compris d'ailleurs de le partager par écrit dans les avis du conseil scientifique. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième thématique très importante qui est la question des inégalités sociales, de la stratification, qui prend des formes extrêmement multiples, extrêmement difficiles aussi à prendre en compte. Donc je dirais que ça, c'est trois dimensions importantes. Après, il y en a d'autres, voilà, sur les questions psychiques, par exemple, sur lesquelles on a attiré l'attention dès les premiers avis, sur d'autres dimensions relatives au deuil, aux différentes formes de spiritualité, voilà, donc des questions qui sont un petit peu plus à la marge, disons, du raisonnement médical, mais qui ont une certaine importance dans ce type de contexte.
Justement, vous pouvez nous le détailler, ce conseil scientifique ?
Alors, il y a eu deux étapes. Il y a une première étape où on était, je crois, 12 ou 13, et puis une deuxième étape où on a rajouté plusieurs membres. Il était multidisciplinaire, c'est-à-dire il y avait bien sûr virologue, médecin, infectiologue, réanimateur, mais aussi une anthropologue, quelqu'un des sciences politiques, de la construction des sciences politiques. Il y avait une représentante de la société civile qui était la présidente d'ADT Quart-Monde. Et puis, on avait par ailleurs quelqu'un qui est ensuite rentré comme gériatre, une pédopsychiatre compte tenu des enjeux de santé mentale, un vétérinaire, et moi-même, et puis bien sûr un épidémiologiste avec Arnaud Fontanet et quelqu'un qui a été essentiel pour la construction de la pensée, un spécialiste des projections, Simon Cauchemez.
Et parce que le virus est dangereux surtout pour les personnes âgées, le gouvernement suspend toutes les visites extérieures dans les EHPAD à partir d'aujourd'hui. Le dernier bilan s'élève à 33 morts en France, une grande majorité avait plus de 75 ans. 86 malades sont actuellement en réanimation. Mais le pire est peut-être à venir. Les pouvoirs publics insistent sur le fait que nous ne sommes qu'au début de l'épidémie. Pour autant, pas de panique. Pas besoin de se ruer dans les supermarchés pour faire des réserves en prévision d'un hypothétique confinement comme en Italie. La grande distribution se veut...
Marie-Andrieux, votre mère était en EHPAD au moment de la pandémie. Est-ce que vous vous souvenez du moment où on vous a annoncé que les visites étaient interdites ?
Pas précisément, enfin, c'est drôle parce qu'en fait on oublie un peu, et en prévision en fait, de notre échange, je suis allée un petit peu regarder, et apparemment les visites ont été arrêtées avant en fait les dates de confinement pures. Donc effectivement, on a été informés du fait qu'on ne pouvait plus rendre visite. Pour nous, ce qui changeait beaucoup, c'est qu'il y avait une personne qui s'occupait de ma maman qui y allait tous les jours, tous les après-midi, qu'elle ne pouvait plus y aller. Ça, voilà, ça c'est un élément qui a été un peu un choc aussi pour nous. Et on avait relativement peu d'informations, même si en fait l'EHPAD a mis en place une sorte de lettre d'information, mais qui est très parcellaire. Enfin, voilà, c'était avant, on avait des nouvelles tous les jours. Là, on sentait qu'ils essayaient d'être rassurants en disant qu'ils avaient les équipes adéquates. Enfin, voilà, qu'ils s'étaient réorganisés pour faire face au fait que ma mère était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, donc elle avait vraiment besoin de soins très très accompagnants. Donc, à la fois que nous on pouvait pas y aller, mais personne ne pouvait y aller, et que c'était un peu l'angoisse de se dire comment on va s'occuper d'elle, sachant que ces maisons-là de fait, sont sous effectif structurel. Enfin, même si tout l'effectif était là, il faut plus de gens que ce qu'il y a.
Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
12 mars 2020.
J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
En fait, le vrai jour dont je me souviendrai toute ma vie, moi, c'est le jeudi 12 mars, le matin, à l'Élysée, à 10h, où on se trouve quelques membres du Conseil scientifique. Tout le monde n'avait pas pu venir, on avait 48 heures d'existence.
Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.
Et on se trouve devant le président, le Premier ministre, enfin tous les ministres, tous les conseillers divers et variés. Et ils nous disent, bon, ben alors, où en est la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on avait préparé ça, en particulier avec Arnaud Fontanet, et on leur dit, eh ben, il faut confiner le plus vite possible et le plus dur possible.
Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses.
Brutalement, les choses s'accélèrent. Les crèches, les écoles, les universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et le 14 mars, c'est Édouard Philippe, alors Premier ministre, qui annonce la fermeture des lieux publics non indispensables. Non indispensables, un concept jusqu'alors méconnu, mais qui va désormais nous devenir familier pour de nombreux mois, voire quelques années.
En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé jusqu'à nouvel ordre. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Il s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse. Tous les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts. Les transports urbains continueront de fonctionner. Mais j'appelle les Français à diminuer leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements interurbains.
Je me souviens de réunions de crise, on l'organisait tous les soirs de manière très structurée entre 18h et 19h.
François Crémieux, ancien directeur de l'ARS.
Et donc ça faisait plusieurs jours qu'on avait compris et qu'on était capable d'anticiper à 4-5 jours près le nombre de patients qui allaient devoir être en réanimation 4 ou 5 jours plus tard, puisqu'on avait compris cette mécanique entre le nombre de patients qui étaient présents aux urgences, le nombre de patients qui m'avaient basculé en maladie infectieuse, et on savait qu'à J plus 4 ou 5 jours, on aurait X patients en réanimation. Et donc on anticipait à cette période-là qu'on était devant l'inéluctabilité de patients qui allaient décéder sans avoir pu rentrer dans un service de réanimation, parce que voilà, les chiffres à ce moment-là devenaient une mécanique infernale. Et donc c'est des soirées, je m'en souviens d'une en particulier, mais avec beaucoup d'émotions, où on se dit, on tient encore 4-5 jours, et puis on tient 4 jours, et puis on tient 3 jours, et puis on tient 2 jours, et puis on savait qu'on tiendrait plus quelques jours après. Et ne plus tenir, ce n'était pas à l'époque décider comment on allait prioriser les patients, qui était un peu l'idée qu'on avait de manière théorique dans une épidémie. Tous les épidémiologistes ou tous ceux qui sont spécialistes en gestion de crise ont anticipé le fait de devoir à un moment être dépassé par le système et le cas échéant de devoir organiser une priorisation des malades. Mais en fait, dans la vraie vie, on ne priorise pas vraiment. À un moment, il y a le malade de trop. Et le malade de trop, c'est possiblement un jeune de 25 ans avec un Covid grave qui a besoin d'un service de réanimation un mardi à 17h. Et si à ce moment-là, il n'y a plus aucun poste de réanimation disponible, on sélectionne pas. C'est ce patient-là qui éventuellement pourra pas être sauvé, et c'est ce qu'on avait vu en partie à Bergame, avec la difficulté à Bergame d'anticiper. Et donc le confinement, ça a été un soulagement, parce que c'est le confinement qui nous a évité la catastrophe à la fois sanitaire, humaine, éthique, de devoir à un moment refuser l'accès à un respirateur, à un patient, quel qu'il soit, jeune, moins jeune, qui serait arrivé en étant le patient de trop à prendre en charge. Donc le confinement, ça a été le soulagement, parce que c'était à ce moment-là la seule issue possible à ce dilemme.
15 mars 2020.
Le journal, votre journal, Winnie Claret, bonjour.
Bonjour.
À la une ce matin, la vie qui se fige en France. On ne sort plus de chez soi si ce n'est pas nécessaire. Le stade 3 de l'épidémie du coronavirus est déclaré. On vous explique ce que ça veut dire dans ce journal. Les autres titres, Winnie.
Malgré le confinement, les Français sont appelés à voter aujourd'hui. Le premier tour des élections municipales est maintenu. On fait le point sur le fonctionnement de ce scrutin.
Je rappelle que quand on se voit ce fameux jeudi à l'Élysée, les élections municipales sont le dimanche. Elles sont maintenues, personne n'a... Bon. Évidemment, la question se pose. Et on s'interroge sur est-ce qu'on laisse passer ce premier tour des élections, ou est-ce qu'on dit, non seulement on confine le plus tôt possible et le plus dur possible, et je rappelle que le président a annoncé ça en deux fois, il l'a pas annoncé la première fois le jeudi soir.
Il l'a annoncé... Des écoles, d'abord.
Il l'a annoncé dans un deuxième temps, parce qu'il voulait qu'il... dans son esprit, qu'il y ait une sorte d'apprentissage de la population à des mesures extrêmement difficiles. Bon, je ne sais pas s'il avait raison ou pas, je constate ce qui s'est fait. Est-ce qu'au nom de quelque chose qu'on pensait efficace, mais somme toute personne n'en avait la preuve que le confinement allait être efficace ? C'est la seule mesure qu'on avait, mais personne n'en avait totalement la preuve. On était nous-mêmes dans un degré d'incertitude. Est-ce qu'on va aller contre quelque chose qui est la vie démocratique du pays ? Et il y a eu une tension dans le conseil scientifique, où on n'était pas très nombreux, à l'Élysée on était une dizaine, pour dire, mais est-ce qu'on va jusqu'à dire, vous ne faites pas les élections, vous annulez les élections municipales ? Non, finalement on est resté assez neutre, et on n'a pas pris parti, ce qui nous a été reproché d'ailleurs, hein, par certains. Par d'autres, au contraire, des gens de sciences humaines et sociales, dire, vous avez peut-être eu raison, parce que c'était too much à la fois. De faire à la fois le confinement et d'aller vers une suppression du premier tour des élections municipales.
Le passage au stade 3 ne remet pas en cause les élections municipales.
Le premier tour aura bien lieu aujourd'hui. Les bureaux de vote ouvrent dans une heure, à peu près, à 8 heures partout en France. Le conseil scientifique estime que la tenue du scrutin est possible à condition de respecter les consignes de distance, notamment, et la priorité aux personnes âgées et fragiles. Avant de vous rendre au bureau de vote, on vous donne ce matin le mode d'emploi.
C'est ça qui est étrange, c'est de voir a posteriori combien de temps il a fallu pour prendre conscience de la situation. Alors qu'au même moment en Italie, ça flambe. Même jusqu'à la fin, cet aveuglement, on pourrait dire, va pousser le président Macron à maintenir les élections municipales.
On n'a pas encore compris qu'en fait, il faudrait des choses assez simples, hein, finalement, qu'on fera ensuite. Porter des masques, ne plus se toucher, ne pas rassembler des groupes importants. On n'a pas encore compris que cette simplicité, elle permettrait d'empêcher la diffusion ultra rapide du virus. Et c'est ça qui est frappant. On le voit, mais on ne sait pas encore l'urgence, on ne sait pas encore l'importance, on n'imagine pas en fait que ça va flamber.
France Inter, édition spéciale, municipale 2020, Claire Servageant.
Bonsoir à tous et donc bienvenue pour cette soirée électorale un peu particulière vu le contexte. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une soirée électorale au sens classique du terme, Politiques, politologues, sociologues, médecins, économistes seront avec nous pour évoquer ce scrutin qui se déroule dans des conditions particulières. On se demandera d'ailleurs s'il fallait maintenir ces municipales alors que les Français sont invités à rester chez eux. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de polémique sur le sujet. Mais depuis hier soir, depuis que nous sommes passés au niveau 3 de l'épidémie au niveau national, c'est le cas. Des élus, mais également des médecins sont montés au créneau pour dénoncer le maintien
de cette
élection.
Pourquoi, à votre avis, il a tenu à maintenir les élections municipales, qui va être un lieu de contamination? Il y avait du gel hydroalcoolique hein, quand même dans les bureaux de vote. Vous avez compris ce qui l'avait poussé à maintenir cette élection?
En fait, l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas semer la panique. Or, annuler des élections, il pense que justement c'est un geste tellement inhabituel, inédit, à vrai dire, ça ne se fait jamais, que annuler ce qui symbolise la démocratie, hein, ça va créer un effet de crise et donc de peur. Je me souviens très bien que la grande inquiétude à l'époque du gouvernement, et pas seulement du gouvernement d'ailleurs, hein, de tous les responsables politiques et économiques, c'était surtout ne pas créer la panique. Parce que, évidemment, ça peut tout d'un coup déstabiliser la société, l'économie française. Et donc, c'était ça d'abord la grande priorité. Et donc, la décision a été prise de maintenir ces élections municipales, alors même que la façon dont se passent les élections, en France notamment, avec ces gens qui font la queue devant le bureau de vote, avec ces échanges d'enveloppes, avec tout ce que ça suppose comme contact humain,
les signatures,
ce stylo qu'on se repasse de main en main, évidemment, c'est un nid, un nid parfait pour diffuser un virus. Mais à ce moment-là, le symbole même de l'élection passe très largement au-dessus du danger de l'épidémie.
Emmanuel Macron.
16 mars 2020.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également
clos. Ce dimanche 15 mars, à Paris, il a fait très beau.
Les rassemblements.
Il a d'ailleurs fait très beau toutes les semaines qui ont suivi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau printemps.
De telles décisions,
après avoir accompli notre devoir de citoyen et s'être pressé dans les bureaux de vote, avec gel hydroalcoolique à disposition, certains ont profité de cette belle journée pour se promener dans les parcs avoisinants. C'était une erreur. Emmanuel Macron nous l'a bien fait comprendre.
Adresser mes félicitations républicaines aux candidats élus au premier tour. Environ 30 000 communes sur 35 000 ont, après ce premier tour, un conseil municipal. Mais dans le même temps, alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation, nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Comme si, au fond, la vie n'avait pas changé. À tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents...
En même temps, avec la fermeture des écoles, des théâtres, des restaurants, on se doutait bien que quelque chose allait arriver. On n'a pas eu à attendre longtemps. Dès le lendemain, à 20h, plus de 35 millions de Français étaient devant la télévision pour écouter le discours du président Macron.
Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches.
Voilà. Le monde d'avant, c'est fini. 5 ans plus tard, on ne sait toujours pas très bien ce qu'est le monde d'après, mais on a au moins appris quelque chose. Ce n'est pas parce que les Français sont allés baguenauder dans les parcs en ce jour d'élection que nous avons tous été confinés. La décision du confinement avait été prise dès le 12 mars. L'annoncer en plusieurs étapes était juste une façon pour les politiques d'amoindrir le choc pour la population et de nous faire sentir un peu coupables par la même occasion. Mais est-ce que ça a marché? La suite au prochain épisode.
Évidemment, ce soir je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité.
Merci à Frédéric Keck, Bruno Canard, François Crémieux, Raphaël Baquet, Dominique Costagliola, Jean-François Delfrécy, Sabine Valera, Samir Hayesh, Aurélien Rousseau, Marie Andrieux et Daniel Benamouzi.
Le second tour des élections municipales serait reporté.
Merci également à Caroline Perragu de l'APHM. Prise de son, Michael Simon et Jean-Benoît Tétu. Mixage, Benjamin Vignal. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Arnaud Plançon.
Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies.
Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Stopper coordination, Emmanuel Laurentin.
Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien.
C'était Covid-19, une pandémie sans fin. Aussi les choses avec nos voisins, premier épisode, une apparition, un documentaire de Christelle Le Polothèque, réalisé par Véronique Samouiloff.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.